Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'épître de Jean. Jean 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimiez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Nous allons maintenant lire Jean 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qu'il est à moi, et vous l'annoncera. Amen.
Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bon sabbat, et particulièrement bonne journée à Isabelle, puisque c'est quand même une journée spéciale, particulière, pour toi, peut-être aussi pour Enzo. Voilà un texte que nous connaissons, deux textes plus particulièrement que nous connaissons, et que peut-être nous abordons avec une certaine discrétion, parce qu'à travers celle-ci se dissimule tout aussi discrètement la gêne que nous avons à envisager le rôle, l'action de l'Esprit-Saint dans nos vies à chacun. Un texte donc intéressant, parfois brûlant, mais peut-être aussi risqué. Risqué parce que, si nous le lisons au premier degré, nous pourrions imaginer que le chrétien est soit une sorte de bébé qu'il faut sans cesse consoler, soit alors quelqu'un qui souffre, au point qu'il faut toujours le consoler. Et voilà comment un esprit ou des esprits mal affermis pourraient voir ainsi le texte et quelque part le déformer. Que veut-il nous dire ce texte, ou que veulent-ils nous dire ces textes? Eh bien, tout d'abord que Jésus, à travers le ministère particulier de l'Esprit, est le Consolateur. Et nous verrons dans quelques instants à quoi cela correspond exactement. Mais dans un premier temps, il me semble qu'il ne faudrait pas passer à côté de l'enjeu principal de ce texte. Nous avons tous évidemment besoin d'être consolés de peines personnelles, familiales, professionnelles, particulières. Mais nous avons tous, et le principe est universel, besoin d'être consolés d'une peine plus profonde que toutes celles-là. Je veux parler du péché et de son avatar le plus abouti, la culpabilité. Je ne sais pas si vous avez fait attention à l'actualité cette semaine. Il était question de deux jeunes filles qui, il y a je crois une dizaine d'années ou un petit peu moins maintenant, ont été victimes d'un viol collectif, on appelle cela une tournante, le mot n'est pas très joli mais bon. Et je surprenais l'interview de l'une de ces deux victimes sur l'une des émissions radio de cette semaine. Et celle-ci de dire, à mesure que le procès avançait, j'avais l'impression que je n'étais plus celle qui accusait, mais que je devenais la personne qui était accusée. Et j'ai réfléchi à cette affirmation glaciale presque, lancée par cette victime, ne l'oublions pas, et replacer cette affirmation dans un contexte juridique qui me semble prévaloir dans notre pays depuis bien des années maintenant. J'ai le sentiment que nous donnons souvent l'avantage, non pas à la victime, mais au fautif. Nous pouvons ainsi dire qu'en France, le droit est souvent celui du fautif. Et j'aime à imaginer, caché derrière cette évidence, l'explication suivante. Si nous avions du mal avec la culpabilité, si nous avions du mal tous consciemment et surtout inconsciemment avec le moteur de toute forme de culpabilité, le péché, la nature pécheresse qui est en nous depuis l'Éden,
Et si lorsqu'une situation, comme pourquoi pas un procès, nous mettait à travers les méfaits de ces fautifs en face d'une forme évidente de culpabilité, nous voulions la refuser. Et nous expliquerions comment le droit est dans notre bel et beau pays de France en faveur des fautifs. Ça me rappelle une histoire. Celle d'Adam. Il pêche et lorsque Dieu vient le voir pour lui dire ce qu'il a fait, que dit Adam, ce n'est pas moi, c'est la femme. Autrement dit, c'est celle que tu as créée, c'est donc toi. Et que dit la femme? La même chose. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Déni de culpabilité. Parce que difficulté d'assumer ce qui nous gêne au plus profond de notre être, le péché. Eh bien, la consolation de Jésus est bien là. Ce que l'Esprit fait lorsqu'il prend possession de nos êtres, et c'est ce que tu vas notamment l'autoriser à faire par ton baptême, Isabelle, c'est bien nous déculpabiliser, nous aider à accepter enfin cette nature pécheresse et tous les fruits mauvais qu'elle continue, chrétien ou pas, de produire encore dans notre vie. Jésus nous console à travers l'Esprit parce qu'il nous donne deux vertus essentielles. D'abord l'honnêteté, ensuite le courage. Honnêteté d'avouer ce que nous sommes, ce que nous avons toujours été, ce que nous restons et resterons. Courage d'assumer cette réalité. Alors, je le crois, on comprend la consolation que le Christ à travers l'Esprit peut nous apporter. Mais si nous en restions là, nous limiterions cette consolation qui n'est pas que spirituelle. Il nous faut avancer pour comprendre tous les secrets, tous les trésors qui se cachent derrière ce process extraordinaire de consolation dès lors que nous nous ouvrons par la foi à Jésus-Christ. Être consolé d'un certain point de vue, c'est être un aigle royal. Lorsque j'étais, et merci les enfants et les même plus grands, vous m'avez rappelé cela ce matin, lorsque j'avais votre âge et que j'étais dans les classes où vous êtes maintenant, on nous racontait l'histoire de l'aigle royal. L'aigle royal a la capacité, quand l'orage est là, quand les éclairs grondissent, quand tout va mal et que la terre serait prête à imploser, de s'élever au-dessus des nuages pour être au contact avec le soleil. La consolation de Jésus, c'est aussi celle-là, celle de l'aigle royal, du sauveur royal. Le Saint-Esprit nous aide parce qu'il nous aide à obtenir honnêteté et courage, et bien finalement à dépasser toute forme de brisure, de souillure, d'injustice, de coupure, de rupture dont nous avons été les victimes. Et il nous permet ainsi de traverser cette masse orageuse et de nous élever bien au-dessus, là où le soleil est toujours présent. C'est cela, la consolation. Pourquoi pouvons-nous dire les choses ainsi? Lorsqu'on revient sur le mot qu'utilise Jésus pour nous parler du consolateur, un mot là aussi risqué, puisque vous connaissez probablement l'interprétation que nos amis musulmans font de ce mot. Ce mot, c'est le parakletos en grec. Très simplement, et dans un premier temps, l'avocat. Eh bien, si le Saint-Esprit est pour moi un avocat, il est celui qui prend ma défense. Il est celui qui nous protège face à des accusateurs potentiels. Celui qui a des arguments à faire valoir en notre faveur. Et je pense à Jésus, forcément. Lorsque nous recevons l'Esprit, pourquoi l'Esprit nous console? Parce qu'il nous convainc dans un premier temps que ce que Jésus a réalisé, cet homme qui il y a plus de 20 siècles est venu pour mourir et ressusciter, a accompli en cela quelque chose d'extraordinaire. Et si je comprends cette extraordinaireté, permettez-moi le néologisme, de Jésus, c'est parce que l'Esprit me donne la possibilité de m'ouvrir intellectuellement, psychologiquement et spirituellement à cette réalité, à cette vérité. Voilà aussi ce vers quoi, Isabelle, tu vas t'ouvrir plus particulièrement, car je sais que c'est déjà le cas, à travers ton passage dans les eaux baptismales, à la possibilité d'une intervention plus prégnante, plus fine, plus profonde en toi de cet esprit pour te convaincre si besoin est encore plus que Jésus est ton sauveur, qu'il a tout réalisé pour toi, qu'il a tout payé. Voilà les arguments de l'Esprit Saint pour toi, pour nous, et que l'Esprit Saint place dans nos esprits parfois eux tourmentés et qui de ce fait le sont un petit peu moins. Mais l'action de l'Esprit n'est pas que celle-là. L'action de l'Esprit est aussi une action d'assistana. En effet, le terme paraclétos, pour en revenir à cela, peut aussi être traduit par assistant, avocat ou assistant. Qu'est-ce qu'un assistant ? Prenons un exemple pour ceux qui ont étudié et qui ont eu à rendre un mémoire de master, par exemple, ou une thèse de doctorat. Lorsque vous commencez à écrire, vous présentez d'abord un projet à un professeur ou une équipe qui sera capable de valider in fine votre projet, et vous allez désigner un assesseur, un assistant. Que va-t-il faire ? Il va vous aider à construire votre projet, à rédiger votre thèse, à organiser votre pensée, à tout structurer de façon à ce qu'au jour J, vous soyez prêt et qualifié pour l'obtention du diplôme que vous visez. Voilà aussi comment le Saint-Esprit nous console. Non seulement il nous dit, et c'est là les arguments qu'il a en notre faveur, que Jésus a tout fait, que Jésus a tout accompli, et qu'en lui nous avons tout, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais il réalise en plus, c'est la partie pratique, efficace de sa présence dans notre être, en partie, et en grande partie, ce que Jésus a parfaitement accompli dans son existence. Il nous aide à faire de notre existence un mémoire de master, bien plus, une thèse de doctorat. Voilà un beau programme dans lequel tu t'engages aujourd'hui, Isabelle. J'en terminerai avec deux autres arguments. Lorsque nous reprenons les textes que nous avons lus, nous voyons rapidement que l'Esprit, le Consolateur, entretient un rapport étroit avec la parole ou la vérité, c'est-à-dire l'enseignement que le Christ avait donné en son temps à ses disciples et à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. De ce point de vue-là, nous pouvons dire que l'Esprit Saint est aussi en nous celui qui nous aide à conserver la vérité révélée par Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ, très pratiquement celui qui nous donne l'envie, le désir de plonger notre regard dans l'Écriture sainte. Celui qui nous donne le besoin, parfois fondamental pour certains d'entre nous, de nous mettre à genoux et chaque jour, plusieurs fois par jour si possible, prier notre Dieu. Celui qui tend notre être vers en haut. L'Esprit est aussi celui-là lorsqu'il nous conduit vers ou qu'il nous conduit dans la vérité. Et je veux rappeler que la vérité n'est pas qu'un enseignement. Elle est une personne, Jésus-Christ. Et enfin, terminons avec la cerise sur le gâteau. L'une des traductions que nous pouvons donner de ce mot paraclétos, c'est supplément de vie. Je me souviens d'un cours que j'avais reçu à Collonges du professeur Roland Meyer, qui est aujourd'hui doyen de la faculté de Collonges sous Salève, faculté de théologie. Vous connaissez probablement pour certains Roland, le professeur Meyer. Le professeur Meyer a écrit une thèse, c'est le cas de le dire, sur la mort. Et lorsqu'il aborde le sujet de la résurrection des morts, il dit très clairement, avec force d'argument, qu'il s'agira à ce moment-là d'un don particulier, d'une dispensation particulière de l'Esprit Saint auprès des morts qui attendent la résurrection. Et on peut comprendre pourquoi certains traducteurs traduisent le paraclétos par le supplément de vie.
L'Esprit Saint, c'est aussi celui qui, quelque part, donne l'éternité par sa présence en l'homme, et une présence qui, parce que particulièrement marquée au moment de la résurrection, ordonnée par Jésus-Christ, la rendra du coup effective. L'Esprit Saint, c'est aussi cette partie mystérieuse de la divinité qui agit dans nos esprits, dans nos êtres, qui est capable de tout restaurer, et ce jusqu'à l'éternité. Alors si j'avais un mot à donner, à lancer pour conclure ces quelques mots d'encouragement, ce serait « Vis chaque jour, Isabelle, et vivons chaque jour, nous ici présents ». La consolation recommandée par Jésus-Christ ici, celle que l'Esprit Saint peut apporter à chacun de nous et à toi particulièrement. Amen. Maintenant, Isabelle a bien vouloir me rejoindre, car vous en avez l'habitude maintenant. Elle va nous lire la profession de foi, ce en quoi elle croit et ce en quoi elle s'engage. La parole est à toi.
Bonjour à tous et bon sabbat, d'une part. Et je suis très émue aujourd'hui. Alors, si vous voyez quelques larmes, pas d'inquiétude, c'est que du bonheur. Je crois en Dieu et son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Jésus est mort sur la croix en sacrifice de réconciliation. Par la foi en son sang versé, je suis sauvée du péché et de la condamnation. Par Jésus, mon Sauveur personnel, Dieu a pardonné mes péchés et m'a donné un cœur nouveau. J'accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste. Je veux vivre de sa vie par le Saint-Esprit et recevoir aussi la puissance de faire sa volonté. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle constitue ma seule règle de foi et de vie. Je veux la méditer dans un esprit de prière. Les 10 commandements expriment le désir de Dieu de m'accorder une vraie liberté. Le Saint-Esprit a inscrit cette loi au fond de mon cœur. Je prends plaisir à vivre tous les commandements, sans omettre le 4e, le sabbat, jour de repos du Seigneur. Le retour de Jésus est proche, et c'est pour moi une bienheureuse espérance. Je veux être prête à rencontrer le Seigneur et je m'engage, en toute occasion, à témoigner de ma foi pour que d'autres participent au même bonheur. L'Esprit du Seigneur communique aux croyants ses dons ou charismes. Parmi ceux-ci, le don de prophétie est l'une des caractéristiques de l'Église du reste. Dieu a fondé l'Église et la dirige. Je veux me rendre utile dans mon Église. Je m'engage aussi à la soutenir par mes dîmes et mes offrandes. En prenant soin de mon corps, temple du Saint-Esprit, j'honore Dieu. Je m'abstiens donc de tout ce qui nuit à ma santé. Par la grâce de Dieu, je choisis d'organiser ma vie en harmonie avec les principes bibliques fondamentaux enseignés par l'Église adventiste du septième jour. Pour exprimer publiquement mon union au Christ et mon entrée dans son Église, je veux être baptisée par immersion, comme l'enseigne le Nouveau Testament. Je reconnais que l'Église adventiste du septième jour appartient au reste des fidèles mentionnés dans la prophétie. Je me joins aux disciples originaires de toute nation, de toute race et de toute langue, et je demande à être reçu comme membre de la communauté locale. Amen.
Merci. Nous avons tous entendu cette déclaration publique, cette profession de foi, qui nous donne maintenant la possibilité d'aller nous préparer pour le baptême qui va suivre. Oh.
font ta profession de foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est vrai qu'il y a une tradition chez nous de dire Amen, mais c'est vrai que c'est un événement que l'on peut applaudir. Oui. Ne nous dit-on pas que les anges eux-mêmes se réjouissent à chaque personne qui donne leur cœur à Jésus? Donc oui, nous pouvons applaudir.
Alors Isabelle nous a fait une proposition lors de sa profession de foi. Elle nous invite à la recevoir dans notre Église. Et elle a demandé à l'Église de bien vouloir la recevoir en manifestant son désir de participer et être membre de l'Église locale. Alors nous allons procéder à un vote. Est-ce que déjà cette proposition est appuyée? Est-ce que je peux appuyer? Merci. Je vais demander, comme à la coutume, quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Et maintenant, on pourrait simplement s'arrêter là, puisque tout le reste est d'accord, mais je voudrais quand même que Isabelle puisse voir les mains levées de tous ceux qui sont d'accord pour qu'elle puisse faire partie de notre Église. Voilà. Eh bien, Isabelle, tu es la bienvenue parmi nous en tant que membre pleinement de notre Église.
Aussitôt entrée, aussitôt en action. C'est le temps du témoignage, Isabelle. Vous savez que le moment du baptême est un moment important parce qu'il donne aussi à celui qui le désire, ce n'est pas une obligation, la possibilité d'exprimer le pourquoi, le comment de cette décision, le baptême par immersion. Et c'est maintenant ce que Isabelle s'apprête à nous livrer. Un très beau témoignage.
Alors tout d'abord, je voulais vous dire que j'avais beaucoup de choses à écrire en fait. Énormément. J'aurais pu écrire un livre, mais je me suis dit, il faut faire court. On m'a dit 4 à 5 minutes. Donc, j'ai fait au mieux pour vous exprimer ce que je vis avec Dieu. Donc, je tiens à vous remercier d'abord d'être tous présents pour cet événement qui m'est si cher. Et remercie chaque jour de notre Dieu de m'avoir guidée jusqu'à vous. Vous êtes pour moi une famille. Et je voudrais expliquer ce qui m'a permis d'être en relation avec Dieu. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux, m'a montré le chemin à suivre. Grâce à lui, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris qu'il avait toujours été présent dans ma vie. Et malgré les difficultés, les obstacles que j'ai pu rencontrer, la foi m'a permis de les surmonter et de grandir plus vite. Durant mon enfance, j'ai souvent prié Dieu pour qu'il me reconnaisse, pour qu'il m'apporte son aide. Et à cette époque, je craignais qu'il ne puisse m'entendre et me soutenir dans les épreuves difficiles. La première fois que j'ai enfin entendu une réponse, une confirmation de son existence, c'est lorsque j'ai perdu mon grand-père. Celui qui m'a élevée, celui qui m'a aimée, qui m'a respectée, celui qui fut mon modèle. C'est un soir de novembre 2004 que j'ai fait une des prières les plus intenses. J'étais prête à donner ma vie pour que mon père, puisque je le considérais ainsi, puisse guérir et revenir à la maison. Car je voulais qu'il soit à mes côtés. Je voulais avoir le temps de lui montrer toute ma reconnaissance, mes réussites, et qu'il en soit fier. J'étais là dans cette chambre d'hôpital, face à lui quand il a poussé son dernier souffle. Tout s'est écroulé autour de moi ce jour-là. Je me sentais soudainement seule au monde et l'impression que mon cœur se déchirait. Et oui, c'est grâce à Dieu, grâce à lui, que j'ai pu enfin accepter ce départ et continuer à vivre. Depuis l'an dernier, j'ai réalisé tout ce qu'il avait fait pour moi. Je voyais clairement mon chemin de vie sur une frise, avec des rencontres particulières, des événements exceptionnels. J'ai vu la mort à de multiples reprises. Et pourtant, je suis là. Je me rends compte qu'il était là à chaque instant et qu'il me guidait. Je crois en lui. Je chante pour lui. Je lui donne toute ma confiance, tout mon amour et ne douterai jamais de son existence. J'aime Dieu et suis la plus heureuse de ses enfants. Heureuse également de pouvoir partager ce bonheur avec vous, cet amour que nous avons tous. Et je suis bénie chaque jour, que de bénédictions, et je suis vraiment heureuse de faire partie aujourd'hui de cette église. Amen. Merci du fond du cœur.